Bienvenue pour cette émission de Géopolitique en partenariat avec la revue Conflit, une émission consacrée à Chemin de France. Conflit est une revue de géopolitique dans laquelle on essaye de montrer que la géopolitique, ce n'est pas que l'histoire militaire, ce n'est pas que les relations internationales, c'est aussi un domaine qui est très important, qui concerne la culture, et raison pour laquelle nous traitons d'aspects culturels, d'artisanat, de terroir. Et cette semaine, nous allons consacrer cette émission à la géopolitique de la cravate. Alors c'est un sujet qui peut paraître futile, mais en réalité, comme tout sujet culturel, on va voir que c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, parce qu'il y a des enjeux d'accès aux matières, la soie, la laine, un enjeu de circulation, et puis également des rivalités entre des régions, entre des villes. Nous allons voir Naples, la région des lacs de Côme, Paris, Londres, bien évidemment. Et puis on va voir également qu'avec la cravate, il y a des enjeux politiques. Un exemple, quand un chef d'État non européen veut montrer son affiliation à l'Occident, il porte une cravate. C'est le cas de Xi Jinping actuellement. C'est le cas également de Fidel Castro, qui est passé de son habit militaire à un costume complet occidental. En revanche, quand un chef d'État non occidental veut montrer sa rupture avec l'Occident, eh bien il porte un vêtement de sa région. C'est le cas par exemple de Mao Tse-tung, qui ne portait pas de cravate, ou bien de Kadhafi, ou encore d'Hugo Chavez. Donc la cravate est un objet culturel, un objet signifiant, et derrière un aspect apparemment futile, il y a énormément de significations qui peuvent nous être données par celle-ci. Pour cette émission, je reçois deux invités, Cyril Néré, qui est un collectionneur de cravates, et historien également de la cravate, et Patrice Brandmeier, qui est entrepreneur en mode masculine, journaliste mode notamment à Monsieur, et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Zampa di Gallina, dont nous avons ici quelques objets qui sont présents, et Zampa di Gallina qui exporte des produits napolitains en France. Alors avant de donner la parole à mes invités, je commencerai par un exemple qui est la cravate que je porte, cravate assez classique, qui est en soie. 90% de la soie mondiale est fabriquée en Asie et la Chine est le premier producteur mondial de soie. Cette cravate en soie a été tissée à Côme, donc dans le nord de l'Italie, et elle est vendue par un atelier français. Ce qui signifie donc que pour fabriquer cet objet, qui n'est pas d'une très grande technicité, contrairement à des objets technologiques comme les caméras qui sont en face de moi, eh bien il a fallu importer cette soie depuis l'Asie jusqu'en Europe. Donc elle a traversé le détroit de Malacca, le canal de Suez, elle est arrivée au port de Gênes, où elle a été transbordée dans des camions pour ensuite arriver dans la ville de Côme, et ensuite, une fois fabriquée, elle est arrivée en France, soit par camion, soit par avion. Donc dans cet objet extrêmement simple, qui n'est pas d'un très grand développement technique, eh bien on a, comme pour toute la géopolitique mondiale, des enjeux de logistique, de transport, de transbordement, et on a vu par exemple pendant l'épidémie de coronavirus que le nord de l'Italie étant la région la plus frappée par l'épidémie, et comme c'est également la région du luxe en Europe, eh bien une grande partie de l'industrie du luxe a été bloquée parce que les ateliers, que ce soit dans la cravate, que ce soit dans les chaussures, ont été fermés. Alors justement, Patrice Brandmeier, vous nous avez apporté quelques objets napolitains. Ce qui est très intéressant dans la cravate, c'est qu'on a des rivalités selon les villes. Alors Naples, bien évidemment, qui est très connu des amateurs. Il y a aussi un style parisien. Et donc là aussi, derrière un objet qui est apparemment toujours identique, une cravate, on se rend compte qu'il y a des styles très différents selon les régions.
Oui, alors moi je vais d'abord vous parler essentiellement de style, hein, puisque c'est quand même... une de mes prérogatives, mais Naples c'est d'abord un style très très particulier fondé sur la décontraction, la nonchalance et la légèreté. Donc on voit il y a une vraie relation directe entre les populations et les objets qu'ils portent, en sachant que l'accessoire privilégié, naturel et iconique de l'homme, ça reste la cravate. Même si de plus en plus, et on peut dire que en fait c'est un peu comme le roi, la cravate est morte, mais vive la cravate. On essaye de l'enlever du vestiaire masculin par souci de décontraction, de style plutôt casual. Et pour autant, ça reste l'élément fondamental du vestiaire masculin, du dressing. Et elle ressort sous d'autres prismes, notamment elle devient un objet de style et d'appropriation de plus en plus utilisé en dehors des codes professionnels. Alors Naples, c'est d'abord... un montage qui est très très léger. Ce sont des cravates notamment qui sont très très souvent peu doublées. Donc notamment celles qui sont en grenadine de soie, qui est quand même la matière la plus qui représente l'excellence du travail napolitain.
La grenadine de soie, comment est-ce que c'est fabriqué? Comment est-ce que, sur quel métier à tisser sont utilisés pour arriver à cette texture?
Non, mais la grenadine de soie n'est pas, elle est non doublée en fait. Donc c'est surtout sur c'est une cravate en fait qui constitue très peu de plis, alors que le parangon de l'excellence de la cravate fonctionne sur le nombre de plis qui sont réalisés les uns sur les autres et ensuite assemblés. On dit souvent que la cravate iconique et la plus recherchée, c'est la cravate 7 plis. Et on peut monter jusqu'à 9, voire 11 plis.
C'est-à-dire qu'on a une pièce de tissu qui est pliée 7 fois.
Voilà, pliée 6 fois. En fait, elle est pliée 6 fois. Et ensuite, on a un autre artisan, une autre personne, ouvrière ou ouvrier spécialisé dans le domaine, qui va assembler les 6 plis pour en constituer un 7e. La seule problématique pour le style napolitain, c'est que ce sont souvent les cravates à 7 plis, sont souvent des cravates un peu plus lourdes à porter. Alors que Naples confère le style napolitain, c'est d'abord une légèreté. Je vous donne un exemple de portée. Quand vous portez une cravate, bien souvent vous avez le petit pan derrière pour bloquer le deuxième pan. Et donc l'introduire à l'intérieur pour pas qu'on le voit lorsqu'on porte la cravate. Or, les napolitains, c'est d'abord une décontraction, c'est presque une provocation, une impertinence. Donc les napolitains ne vont quasiment jamais mettre leur pan pour en fait porter votre cravate de façon très leste et lâche, pour assumer cette totale légèreté, ce style, ce qu'on appelle plus communicant, la sprezzatura.
La sprezzatura.
La sprezzatura, en fait, qui même revient...
La nonchalance.
La nonchalance italienne, qui vient notamment du XVIe siècle de l'art...
Castiglione.
De l'art castiglione.
Balthazar Castiglione.
Voilà, et qui représente cette décontraction légendaire napolitaine, qui s'oppose au style anglais. Alors, ce qui est quand même très, très paradoxal et parfois schizophrénique, c'est que, là je vous ai apporté une autre cravate qui est en motif Ancient Madder, qui est un motif initialement anglais, et qui est en réalité a été totalement démocratisé par les Napolitains. Donc nous avons régulièrement un antagonisme entre le style napolitain fait de légèreté, de souplesse et de décontraction, versus le style anglais qui est quand même plus ampoulé, un peu plus rigide et conformiste. C'est quand même assez original que Naples se soit approprié un tissu et un motif anglais pour en faire une cravate démocratique que l'on trouve notamment chez, on pourra en reparler tous les trois, notamment chez l'une des marques iconiques mondiales de la cravate napolitaine qui est Marinella.
Alors il y a cette troisième cravate là qui est intéressante qui est en Donegal. Donc là c'est une cravate d'une matière typiquement anglaise.
Oh, exactement.
Mais travaillée à la napolitaine.
Exactement. Donc pareil. Alors le Donegal est une matière plutôt lourde anglaise.
Quasiment un tweed. Ouais.
Voilà, qui est assimilable au tweed, que l'on trouve d'ailleurs souvent sur des vestes et qui a été justement déportée, ce qui est aussi le style napolitain. Les napolitains qui ont un côté à la fois pouilleux et flamboyant et un peu provocateur aiment détourner les matières initiales pour les réinjecter, les réintégrer dans d'autres objets. Et donc ils ont utilisé une matière qui est apparemment très lourde, donc qui est quand même confectionnée de façon très simple et sans trop de plis. On dit communément que en général les cravates napolitaines sont constituées de pas plus de 3 plis, ce qui techniquement n'est pas exceptionnel, mais qui, dans leur style, leur confère une légèreté qui est indéniable au porté. Voilà. Et alors, deuxième chose, étant nous le seul site napolitain dédié à l'élégance napolitaine, nous avons voulu rendre hommage aux couleurs de Naples, puisque nous affublons en fait toutes les cravates des couleurs jaune et rouge du drapeau napolitain.
Alors Zampa di Galina, c'est, alors les connaisseurs savent ce que ça veut dire, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme du napolitain, justement en référence à une manière de coudre les boutons.
Alors Zampa di Galina veut dire pâte de poulet, Zampa di Galina, pâte de poule, en italien. Et nous avons souhaité détourner cette acception et cette appellation technique d'une façon de coudre les boutons, qui remonte à, je crois, aux alentours des années 30 ou 40. L'histoire est très très simple, hein. c'est pas une légende. On ne rapporte uniquement la vérité. Très très simple, c'est la grand-mère d'un grand tailleur napolitain qui s'appelle Luigi Borelli, qui avait du mal à voir, elle avait 85-86 ans, elle avait du mal à voir pour coudre ses boutons. Alors il faut savoir que quand on coud un bouton de façon très classique, vous le cousez avec, il y a quatre trous, donc soit en face, comme ça, soit en croisée. Donc vous avez toujours deux pans pour coudre vos boutons. Et elle avait du mal en fait à aller en face ou en diagonale. Et donc elle va voir son petit-fils et elle lui explique qu'elle a du mal à viser, à cibler les trous. Et donc elle lui dit, je vais prendre un des premiers trous, je vais aller avec celui d'à côté, je vais revenir. Après je vais aller vers celui d'en face et je vais revenir. Et je vais aller vers celui de droite et je vais revenir. Ce qui donne en fait un cousu avec trois pans en forme de patte de poule. Et qui a une double vertu, c'est que c'est le fait de rajouter un petit pan sur le bouton et 10 fois, rend le bouton 10 fois plus solide. C'est très très dur de supprimer un bouton aux Zampadi Galena. Et de surcroît, c'est pour ça qu'on a choisi cet emblème pour le site de Zampadi Galena. C'est une technique qui n'est possible qu'à la main, que vous ne pouvez pas industrialiser, donc c'était pour nous une façon de rendre hommage au travail artisanal, et c'était une ode au savoir-faire napolitain qui est mondialement reconnu dans le domaine de du vêtement et de l'accessoire.
Alors Cyril Néry, ce qui est intéressant également à travers la cravate, c'est qu'outre les matières et outre les villes, mm-hmm. et les styles de ville, la cravate est aussi un élément significatif, notamment pour des clubs, pour une manière de se présenter, une sorte de carte de visite, sans avoir à dire qui l'on est.
Tout à fait. Alors, la cravate club, telle qu'on la connaît, donc j'en porte une aujourd'hui, c'est né en fait d'une tradition anglaise issue d'abord des écoles anglaises, des public schools, puis des universités et des régiments. Donc en Angleterre, la tradition est de porter lors d'un événement de son régiment, de son école, de son université, la cravate de son cercle, pour prouver son appartenance, pour montrer son appartenance, et il y a une certaine fierté. Donc voilà, alors on dit que les Américains ont inventé des bandes inversées, notamment le Brooke Brothers, pour que ne pas en fait choquer les Anglais en disant ben voilà, il porte les couleurs de mon régiment, mais il n'a pas fait mon régiment, ou il porte les couleurs de mon club, mais il n'a pas fait mon club. D'ailleurs, il y a une anecdote très drôle rapportée par James Darwin, où il y a un Anglais parvenu qui arrive à New York et puis il va au West Brooklyn Club, qui est un club d'aviron. Alors il dit mais pourquoi vous venez là? Ben, je viens, je m'inscris, ok. Et puis maintenant, il a le droit de porter la même cravate que les autres membres du West Brooklyn Club. Et pourquoi? C'était tout simplement la même cravate que le collège d'Eton, qui est la public school la plus prestigieuse d'Angleterre. Donc c'est un bleu de Prusse, donc un bleu très foncé avec des bandes bleu ciel. Voilà. Et je sais que le président Chirac aimait bien cette cravate. Alors, parfois, les Anglais disent « Ah, mais il n'a pas fait Eton !» Voilà, donc c'est un moyen d'appartenance, c'est un moyen de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai une anecdote aussi dans les cravates de cercle. Vous allez dans un cocktail d'une maison de commissaire-priseur ou d'une maison un cocktail artistique, et puis parfois vous portez la cravate de votre club. Les clubs, il y a quand même parfois 100, 200, 1000 membres, voilà, on ne connaît pas forcément tout le monde. Et donc l'anecdote, c'est de voir la cravate de son cercle et dire « Ah, jolie cravate !» Et ça, c'est un « gimmick ». Entre guillemets, pour dire « Ah, il est du même club ». Donc voilà, c'est un moyen d'appartenance. Et puis, bien sûr, après, les clubs se sont mis à faire d'autres objets. Il y a des pochettes, il peut y avoir des blousons, des casquettes, enfin, selon aussi l'activité sportive des cercles. Voilà, donc ça vient de l'Angleterre et ça a été copié et par les Italiens et par les Américains, sachant que les Italiens ont introduit d'autres rayures, d'autres formes de cravate club, et c'est voilà, ça montre une appartenance et ça fait partie de l'histoire de la cravate.
Et quand en géopolitique on réfléchit toujours à la notion de soft power ou d'éléments de puissance, on voit là comment une invention anglaise, par ce qu'elle signifie, par l'aura aussi de l'Angleterre, s'est diffusée et a été reprise et copiée par d'autres villes.
Tout à fait. Alors, c'est un élément de soft power. On remarquera d'ailleurs que des grands hommes politiques, enfin des chefs d'État, portent des cravates aux couleurs de leur parti. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que la couleur des républicains aux États-Unis est le rouge. Donc on voit Donald Trump porter une cravate rouge, on a vu George Bush porter très très souvent une cravate rouge. On voit David Cameron porter, on a vu bien sûr, il y a un nouveau Premier ministre en Angleterre, mais il portait une cravate bleu ciel, et ils portent toujours la même cravate. Depuis 2008, on voit les chefs d'État quasiment porter toujours le même type de cravate. Vous voyez Nicolas Sarkozy porter une cravate en grenadine de soie de chez Stark & Son. Bon, bien sûr, il devait en avoir plusieurs.
Tailleur parisien, Stark & Son.
Tailleur parisien, ouais, tout à fait. Exactement, tu le sens. Même bon, Alain Stark, dernier qui est malheureusement décédé, était le dernier, puis ça a été racheté par une très très grande maison, la haute couture, le summum de la haute couture parisienne, qui est la maison Camps de Lucca, hein, un des grands tailleurs parisiens comme Schifonelli, oui. Charvet, Schmalto. Et voilà, donc Emmanuel Macron porte aussi des cravates en grenadine de soie lors d'une autre maison.
C'est la maison Cinabre.
Voilà, alors au début, il a commencé par Jonas et compagnie, qui était une maison plutôt de costumes plutôt parisienne, avec des costumes plutôt d'entrée de gamme, on va dire. Et donc voilà, bah, je suis content d'apprendre que...
Oui, c'est la maison Cinabre qui, je crois, a son atelier de confection dans le Loir-et-Cher.
Ah, bah très bien.
Et qui donc communique ouvertement sur communique ouvertement sur le port de la cravate et le choix d'Emmanuel Macron.
Ce que vous dites là, Sérinari, est intéressant parce que ce qu'on dit en début d'émission, c'est que c'est un objet qui est finalement très simple, très classique, la cravate. Mais derrière, il y a une signification culturelle qui peut être forte, notamment quand on voit des chefs d'État dans le choix de la cravate qu'ils vont faire. C'est un choix qui n'est jamais neutre parce que c'est un objet qui est tellement signifiant. On a vu Jean-Luc Mélenchon, lui, avoir effectivement des cravates rouges.
Tout à fait.
D'autres hommes politiques qui ne portent pas de cravate pour montrer qu'ils sont révolutionnaires. C'est le cas des Verts, par exemple. Ils n'ont pas de cravate verte, mais
ils pourraient porter une belle cravate verte comme celle-ci.
Voilà. Grenadine de soie fabriquée en France, par exemple. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport à la notion de luxe et à la notion d'artisanat. C'est-à-dire que, comme disait Patrice tout à l'heure, on a des grandes maisons en Italie, en France et en Angleterre. Dans certains pays, c'est très bien vu de porter des objets de ces grandes maisons. Et dans d'autres, comme en France, non, on se cache quasiment.
La France, c'est très... on est dans la discrétion. D'ailleurs, la plupart, quand on regarde la plupart des hommes politiques, même des présidents, on reste quand même sur des teintes très neutres. Enfin, Emmanuel Macron est quasiment... Très souvent, enfin...
Ah bah, le bleu Macron, le bleu, son tailleur...
C'est bleu marine.
Enfin, qui est un tailleur... oui, c'est un bleu marine. Ce tailleur l'a appelé le bleu Macron. Bon, après, voilà, ce tailleur n'est pas un des grands tailleurs parisiens.
Non.
Parce qu'il y a eu une cassure en 2008. Voyez-vous, quand vous voyez les costumes de François Mitterrand ou les costumes de Jacques Chirac, ce sont de grandes maisons. C'est une info qui est vérifiable. Vous voyez le catalogue de la vente aux enchères qu'a organisé Daniel Mitterrand. Vous voyez 104 costumes Schifonelli, hein, donc le tailleur de Mitterrand était Adriano Schifonelli. Et puis je crois qu'il portait des cravates Marinella, entre autres. Hein, généralement,
oui, Chirac également.
Et Chirac également. Son tailleur était. Un de ses tailleurs était Lanvin, voyez-vous. Donc là, il y avait ce qu'on appelle le power suit, c'est-à-dire vraiment le costume de pouvoir. Et puis, on est impeccable. Il n'y a pas... Ça ne tire bouche pas. Enfin, on sent l'art ailleurs. Dans le cadre... Après, il y a eu la crise de 2008. Donc, on est revenu sur des accoutrements, des habits plus sobres. Alors, ils peuvent être extrêmement bien coupés. Vous regardez Philippe d'Espagne, Philippe VI. Vous voyez des photos parfois à côté de François Hollande. Et vous voyez vraiment Philippe d'Espagne, un costume de coupe type Séville Row, extrêmement bien coupé. Tout est bien coordonné. Donc, voilà... C'était plus compliqué pour François Hollande, et parce qu'il est très grand en plus, Philippe VI d'Espagne. Voilà, donc on montre quelque chose, d'où le mot américain « power suit ». C'était aussi un mot utilisé pour les costumes croisés américains qui étaient avec des belles rayures et tout. Donc c'est un instrument de communication.
Puis le luxe est un des piliers de la puissance française, il y a le luxe alimentaire et le luxe également vestimentaire. On accepte qu'une femme soit souvent vêtue avec des couturiers parisiens, et nombreuses sont les femmes étrangères à venir s'habiller chez des couturiers parisiens. En revanche, on accepte moins que des présidents ou des ministres qui sont censés représenter le pays soient habillés en tailleur parisien, ce qui serait quand même une manière de présenter la puissance française et l'artisanat français à l'étranger.
Ça permettrait de présenter justement l'artisanat français et la haute couture masculine française. Alors il est vrai qu'avec la crise de 2008, les présidents se sont mis, que ce soit François Hollande ou Emmanuel Macron, à mettre des costumes moins chers. Je rappelle que dans le communiqué de presse de l'investiture du président Macron, il y a le prix de son costume. Qui était donc pas cher.
Oui, alors en fait, il y a une histoire aussi sur le costume d'Emmanuel Macron.
Oui, qui est lui.
En fait, il y a une raison, la vraie raison, parce qu'on dérive un peu de la cravate, le costume, mais les deux sont intimement liés.
Oui.
On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. c'est que quelques mois avant l'élection présidentielle, il s'habillait au sein d'une autre maison qui s'appelait La Gonda, qui, de surcroît, était une maison d'ailleurs au tarif très correct. Hein.
Oui,
on
oui.
Pas sur des tarifs
un
de
moyen
Chifo,
de gamme,
de Chifoni ou Kampf de Luka. Voilà, on ne va pas rentrer dans des tarifs précis, mais c'était très correct, surtout au regard des autres tarifs de costumes.
Tout à fait.
Des autres pays. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème en Angleterre ou aux États-Unis que le président de la République, le président des États-Unis ou le Premier ministre anglais se vêtise un costume à 5, 10 ou 15 000 euros. Ça ne pose aucun ouais. problème. Donc Emmanuel Macron va chez La Gonda et achète ses costumes régulièrement. Sauf que, en fait, ça a été tweeté, l'information est sortie, et ça a été tweeté notamment par des personnes d'extrême gauche.
Ouais.
Et l'information est sortie, non pas sur. En fait, ils ont récupéré l'information, pas en mentionnant le tarif, mais en précisant l'association à un niveau de SMIC.
Voilà.
Donc, ouais. ils ont sorti l'information selon laquelle voilà. un futur candidat pour la présidence de la République se permettait d'acheter des costumes au tarif d'un SMIC, qui est en soi un prix voilà. absolument ordinaire, mais qui, dans l'inconscient des Français, et là on rentre dans une approche aussi quand même, une culture assez catholique liée à la problématique de l'argent, et ce qui est un peu parfois tabou, de s'acheter un costume de ce prix-là, qui pour le Français moyen est cher, mais qui pour un homme de cet acabit est pas cher du tout. Et donc pour éviter que, en fait, son image se dégrade, ils ont décidé de changer de costumier et de diviser le prix plus que par deux.
Voilà.
Donc il y a un souhait, quelque part, d'avoir une exemplarité pour se mettre en fait, au niveau des Français.
Alors, il y a deux maisons qu'on n'a pas évoquées, une maison française, qui sont Hermès et Charvet.
Oui.
Peut-être commençons par Charvet, c'est une histoire intéressante. Place Vendôme, à oui. Paris, une maison qui devait fermer dans les années 60 et qui a été reprise à la demande du général de Gaulle. Et d'ailleurs, lui-même s'habillait en chemise et en cravate
Charvet, ouais.
chez Charvet.
Tout à fait.
Donc, c'était une manière aussi de représenter de la puissance française. Et aujourd'hui, Charvet est un des tailleurs de cravates tout
c'est
à fait
fleurons, oui.
respectueux
oui, oui.
dans le monde.
C'est l'atelier
et de costumes
oui.
aussi.
Oui, oui, c'est l'atelier Boivin, en fait, qui crée oui, les...
Très, très belle maison.
C'est ouais. une des
fabriquée plus belles... à Paris.
C'est une des plus belles maisons, donc parisiens. Ouais, ouais. Parce qu'il y a encore des ateliers parisiens. Ils ouais. sont... Enfin, il y en a...
Donc à Paris même.
Paris même.
À Paris
oui,
même.
Oui, oui.
En appartement, tout à fait.
Oui, ouais. Toute petite maison, mais qui est alors
1900,
qui, hormis Charvet, est dans une extrême confidentialité mm-hmm. sur ses clients. C'est un atelier qui s'est exclusivement concentré sur la marque blanche. Donc vous n'aurez pas de cravate, il n'y a pas de cravate Boivin. Voilà, c'est exclusivement un des fournisseurs officiels des plus grandes marques de cravates. En France et dans le monde.
Alors on a évoqué le style napolitain, anglais, il y a un style français pour la cravate, il y a une manière de tailler, de coudre, de traiter les matières.
Je parlerai des motifs peut-être,
oui,
parce que Hermès est très connu sur les motifs d'animaux.
Et les bestiaires, ce qu'on appelle les bestiaires.
Les bestiaires, voilà.
Oui.
Sachant que les cravates Hermès sont aussi portées par des chefs d'État étrangers. Ces cravates quand même ont des motifs où ils sont les seuls à les faire. Donc on voit la monarchie britannique porter des cravates d'Hermès. Alors certes, le prince Charles a son Royal Warrant sur Benson & Clegg, donc qui est un cravatier et aussi un fabricant de badges et boutons à Burlington Arcade à Londres, mais il porte aussi des cravates Hermès comme juste ses deux fils actuellement. On en voit régulièrement. Et là, généralement, on se trompe pas, on reconnaît le bestiaire, les petits animaux, chose qu'on voit moins
oui.
chez nous, en France. On dit que c'est un peu passé de mode, c'est plus les années 90, entre guillemets, on en verra encore. Ou alors maintenant, on voit d'autres motifs, notamment chez les politiques français, on voit aussi des cravates Hermès avec des petits haches quasiment invisibles.
Partout, oui.
C'est une collection plutôt récente d'Hermès et qui a du succès. Bon, ça fait partie des grandes maisons mondialement connues. D'ailleurs, le prix de revente, si vous allez sur eBay, vous verrez toujours les Hermès beaucoup plus chers que d'autres marques de cravates, parce qu'il y a une appétence toujours pour ces cravates, même si, c'est mon avis personnel, elles sont peut-être moins complexes en fabrication que ces cravates, cette plie napolitaine.
Donc le prince Charles, futur roi d'Angleterre, porte des cravates françaises, mais le président de la République française n'ose pas mettre des cravates parisiennes.
Ah bah oui, là oui, maintenant, oui, mais... Cynabre est une... si Cynabre oui. est une maison française, on commence à résoudre le problème. Maintenant, il faudra voir effectivement peut-être le problème des l'aventure des costumes, mais...
Il faut savoir que là, d'ailleurs, je pensais à Hermès, mais alors je ne sais pas exactement où se fournissent tous les grands cravatiers en termes de matière, mais une des plus belles soies du monde vient du Brésil. Enfin, mm-hmm. la soie d'Hermès... Donc c'est intéressant de creuser la raison pour laquelle je ne connais pas, mais la raison pour laquelle la soie brésilienne est particulièrement recherchée, mais toute la soie d'Hermès, et après qui est récupérée et tissée en France, oui. vient du Brésil.
C'est le troisième producteur mondial de soie de Brésil. Le premier, c'est la Chine, et le Brésil, effectivement, est en troisième position. Et c'est vrai qu'on n'attend pas le Brésil sur la soie. On pense Asie, donc route de la soie, exactement. Évidemment, mais on n'attend pas le Brésil sur une production, et en plus de qualité, puisque... Elle est renommée. Il y a un autre nom, alors qu'on a un peu évoqué, mais qui est Marinella. On a vu récemment, il y a quelques mois, Donald Trump envoyer une lettre de remerciement à Marinella, puisqu'il se fournit chez eux. Donc là, on a un président américain qui se fournit à Naples. Là aussi, ça fait partie des grands, grands artisans mondiaux.
Marinella, c'est une icône de la cravate, et je pense que c'est un des emblèmes du style napolitain, de la façon dont les artisans... napolitains vivent leur métier. C'est-à-dire que c'est plus qu'une passion. Je vous donne un exemple. Quand vous allez chez Marinella, alors déjà vous avez la queue. Enfin, quand vous allez chercher l'échoppe de Marinella, c'est 20 mètres carrés. Hein.
C'est 20 mètres carrés.
Pas plus de 20 mètres carrés.
Mondialement connu, 20 mètres carrés, une boutique.
Dans Naples.
C'est impressionnant.
Et parfois ils ouvrent à 7 h du matin. Ils ouvrent à 7 h du matin uniquement pour accueillir leurs clients, leur servir des viennoiseries. Même s'ils n'achètent pas, c'est pas grave. Hein. Le café. Et après ils ouvrent vraiment leur boutique à 9 h 30. Vous avez la queue. Alors, Covid, pas Covid, c'est une boutade, mais vous ne pouvez pas être plus de 10 dans la boutique, parce que la boutique est petite, donc d'où l'effet de queue dans la rue, où les gens n'hésitent pas à attendre pour acheter leur cravate unique au monde. Et comme vous l'avez si bien dit, on part de Gabriel D'Annunzio, Mastroianni, Visconti, JFK. Vous avez encore Donald Trump, on en parlait. Il y a Bill Clinton.
Peut-être
beaucoup,
un peu
beaucoup de cravates bleu clair de chez Marinella Ancient Matter. Jacques Chirac, évidemment, se fournissait chez Marinella.
Donc c'est à la fois la cravate des politiques, des écrivains, et ça veut dire qu'avoir avoir cette marque, c'est aussi se rattacher à l'image véhiculée par ces personnes.
Oui, et la cravate Marinella est quand même plutôt connue, ce qui est assez drôle, plus pour des modèles assez, enfin, Ancient Matter, mais assez classiques.
Enfin, fleurs.
Le modèle voilà, qui ressemble un peu à celui-ci, avec des fleurs un peu plus rapprochées. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, absolument, c'est que aussi, Marinella aussi, le génie de la marque Marinella, il vient aussi, c'est quand même très particulier, du nombre, c'est même pas pléthorique, on est en surabondance de la création de tissus. Et alors, j'ai vérifié quand même par plusieurs fois le chiffre. Ils arrivent à choisir entre 1000 et 1500 tissus toutes les semaines ou tous les 15 jours pour faire exclusivement des séries limitées. Et avoir l'impression, quand vous portez une Marinella, d'avoir une cravate sur mesure, il est quasiment impossible que vous puissiez croiser quelqu'un d'autre à Naples, à Londres, à Milan ou à Paris qui ait le même motif que votre cravate Marinella. En fait, on est dans une surabondance de tissus. Qui permet d'avoir ce côté unique de votre cravate, outre le montage qui est absolument remarquable.
Alors il y a ce motif face de moi qui est intéressant, Cyril Néré, par rapport, vous évoquiez les cravates club, là on est sur une cravate rayée dans un... c'est de la laine, non
la
matière.
Oui, c'est de la laine en cravate tricot, oui.
Tricot, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, ou qui revient, enfin qui était très à la mode dans les années 70, un peu passé de mode et qui revient aujourd'hui dans les années 2020.
Alors... à la fois la cravate tricot et la matière. Enfin, parce que il faut quand même bien dire que maintenant on n'entend plus parler que la cravate tricot a pris une place plus que débordante, notamment auprès des jeunes, pour avoir un look un peu décontracté, chic.
On peut porter effectivement sans costume.
Des gens et c'est une nouvelle façon de porter la cravate.
Beaucoup moins jeune, j'en suis parfait exemple, mais on prend Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson était l'emblème et l'icône en France de la cravate tricot qui portait toujours vêtue d'une chemise bleu clair, d'un costume beige, gris clair ou bleu marine. Ouais, il avait systématiquement que des cravates en tricot. Bah, vous le voyez, on avait toujours reconnu son élégance et son style, mais quand vous parlez d'un jeune à 20 ans, vous lui montriez des... Il y a 20-25 ans, vous aviez 20 ans, la cravate tricot était totalement ringardisée. Maintenant, c'est devenu presque le summum du chic et du style. Donc, la cravate, c'est un éternel recommencement. Donc, vous avez des cravates tricot alors, de plus ou moins grande largeur. Hein. Vous oscillez entre 5 et 7 cm. Vous avez la cravate tricot, donc, justement, pour vous répondre, en soie, donc plutôt brillante, en laine, comme celle-ci, unie, rayée, dans toutes les matières, et qui confère un style à la fois décontracté et très habillé, ouais, qui vous permet un peu de vous singulariser. La cravate, c'est un élément de singularisation quand même.
Ça permet à des jeunes de porter une cravate en faisant peut-être moins classique qu'une cravate en soie traditionnelle. Et il y a plusieurs tissages, hein, d'ailleurs. Vous voyez que ce tissage est différent du vôtre.
Exactement.
Donc il y a des tisseurs de cravates italiens qui se sont mis à faire même leur propre tissage. Mmh. Je pense à Sozzi, par exemple. Et voilà. Et alors Marinella a été un peu une sorte de paquebot, navire amiral pour d'autres plus petites maisons, de petits ateliers qui sont devenus maintenant de renommée mondiale. Des gens comme Calabrese, Capelli. À Rome, il y a Pellicano, tu vois. Donc ouais. ça, comme dans le champagne, vous savez, vous avez des grandes maisons de champagne et puis qui ont tiré des vignerons qui sont devenus après des vignerons d'auteur.
D'ailleurs, ça, ce sont toutes, d'ailleurs, puisque nous, on est un des fournisseurs de Calabrese.
Voilà.
Ce sont quasiment toutes des cravates Calabrese qui est donc issue d'une famille. Parce que Naples, ce sont des familles séculaires, faut le dire, totalement générationnelles. On se transmet un savoir-faire de génération en génération. Et donc, Calabrese a créé son usine de fabrication et sa boutique dans les années 20-25. Et après, ça s'est pérennisé sur la cravate, sur les accessoires, les pochettes et notamment les écharpes.
Il y a un autre motif intéressant aussi, c'est le motif tartan. Parce qu'on évoquait les cravates anglaises, le motif tartan est plutôt écossais.
Oui.
Et lui aussi, le tartan, à l'origine, c'est pour différencier les clans
exactement.
Écossais.
Exactement. Il y a 1500 clans, donc il y a 1500 tartans. Et vous avez donc un Scottish Tartan Association ou Society, et donc tout ça est référencé. Vous pouvez même créer votre propre tartan, le tartan de votre région. Il y a un tartan du pays Vannetais, c'est-à-dire la région de Vannes. Vous avez des tartans au centre de la France qui sont déposés hein, à cet organisme. Donc vous pouvez porter un tartan. Alors c'est vrai que c'est une cravate qu'on aime bien porter, le tartan avec une veste de tweed, plutôt week-end. Elle est plutôt dans des laines, donc elle serait assez proche de ce Donegal. Voilà, donc vous avez cette tradition anglaise. Je pense même que les Italiens en font d'ailleurs.
Oui,
et peut-être même sur des tissus assez légers pour aller justement avec des vestes dépareillées. Ça irait très bien par exemple avec votre veste. Et vous pouvez aussi porter des cravates tartan avec un beau prince de Galles comme ça. Donc c'est un motif très utilisé à la campagne avec des tons justement humus, marron, du vert qui rappellent les couleurs de l'Écosse ou de la campagne anglaise.
Alors l'émission va approche de sa fin. Il y a un pays qu'on n'a pas encore évoqué qui est le Japon. Qui est intéressant parce que lorsqu'il y a eu le mouvement de modernisation du Japon à la fin du 19e siècle, l'ère Meiji, débuté en 1848, les Japonais ont adopté justement le costume occidental et on voit que les Japonais sont souvent habillés en habit lors des grandes cérémonies et l'habit n'est plus vraiment porté en Europe. On dit parfois que l'empereur du Japon est l'homme le plus élégant du monde. Est-ce que les Japonais ont leur tailleur de cravate, leur fabricant de cravate ou est-ce qu'ils se fournissent en Europe ?
Sur les cravates, c'est à vérifier, les Japonais ont été et sont toujours dans les ateliers des plus grands tailleurs, aussi bien de chemises, de costumes, de souliers. Donc vous avez des noms qui émergent. Il y a un bottier qui s'appelle Fukuda, qui est peut-être un des plus beaux bottiers du monde. Vous avez un tailleur à Paris qui s'appelle Kenjiro Suzuki, qui a fait ses armes chez Camp, chez Smalto. En tout cas, je sais pour Smalto. Et il est d'une précision remarquable. Il est d'une précision, c'est de la haute couture, du sur-mesure. Donc parfois, le japonais pourrait avoir tendance à dépasser le maître, vous voyez. Alors, il sera sur la précision, il ne sera peut-être pas... L'italien aime bien aussi, surtout le napolitain, bien montrer que c'est fait à la main. Donc voilà, faire des choses peut-être légèrement moins nettes qu'un japonais.
Pour ce que vous dites, enfin, c'est ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour les personnes et les auditeurs, c'est évidemment l'Italie, c'est le pays où globalement les gens sont le mieux habillés au monde. Enfin, c'est assez commun de le dire. En revanche, si vous cherchez les hommes les mieux habillés au monde, qui reste une niche, hein, vous êtes sur 0,01% de personnes, c'est le Japon. Parce qu'ils ont, voilà, ils ont à la fois ce goût obsessionnel du sartorial, donc de ce côté assez libéré, et en même temps cette rigueur qui est presque obsessionnelle, voire pathologique, où on est au millimètre près. Et c'est vrai que, outre les adresses dont vous avez parlé, les Japonais se fournissent aussi bien à Savile Row que Naples. Alors les Japonais sont des dingues, il faut le dire, de l'art napolitain et du style sartorial napolitain.
Donc comment on dit au Japon un costume, comme on appelle un costume au Japon, on dit Sabiro, comme Savile Row en fait. Ils ont transformé le nom de la rue des tailleurs anglais à Londres.
Alors, on a évoqué Naples, Rome, la région du lac de Côme. Il y a d'autres villes qui comptent dans le domaine de la cravate, dans le domaine du tailleur, enfin Paris, Londres évidemment. Aux États-Unis par exemple, est-ce qu'il y a des tailleurs américains qui se démarquent et qui aujourd'hui sont parmi les grands?
Alors parmi les grands, je ne sais pas, mais vous avez quelques grands tailleurs new-yorkais, notamment des transfuges britanniques qui ont monté leur maison il y a longtemps, donc comme Leonard Lonsdale par exemple, qui vous fait un produit typique de Savile Row. Vous avez une maison qui s'appelle Brooke Brothers, hein, que j'ai cité tout à l'heure, qui a créé beaucoup de styles.
Notamment la chemise button-down.
Voilà, la célèbre button-down, qui est la chemise idéale avec une cravate tricot, un costume en flanelle.
Il y a peut-être une précision sur la chemise button-down, c'est que tout le monde ne le sait pas, mais quand vous portez une chemise button-down qui n'est pas évident avec la cravate...
Button-down, c'est avec le col
boutonné.
Avec des boutons,
mais, tout à fait. Mais notamment, je pense à Gianni Agnelli.
Oui,
parce que qui est quand même l'ancien, donc Di Avocato, l'ancien patron de Fiat, décédé il y a quelques dizaines d'années, qui est une icône du style mondial, portait systématiquement des chemises à col, donc button-down, mais déboutonnées. C'est-à-dire que quand vous portez une chemise en button-down, il faut toujours déboutonner votre chemise quand vous portez une cravate. Voilà, c'est une question de style, et Agnelli le portait parfaitement. Et dernière anecdote sur Agnelli, qui était quand même à la fois quelqu'un d'extrêmement élégant et chic, mais en même temps très visionnaire et innovant sur le style. C'est quelqu'un qui, dans les années 70-80, quand il allait au conseil d'administration de Fiat, il s'habillait d'une certaine manière. La semaine suivante, vous aviez tous les membres de son conseil d'administration qui essayaient de s'habiller comme lui. Et un jour, il est notamment arrivé avec un costume en flanelle, des tots aux pieds, et avec parce qu'il faisait assez froid, et il mettait un pull à col rond et une cravate. Sauf que sa cravate, en fait, il l'a mise par-dessus. C'est quand même très drôle. Il a mis par-dessus son pull à col roulé, ce qui est quand même totalement original. Mais la semaine suivante, vous aviez tous les membres de son conseil d'administration qui faisaient pareil.
Et la montre aussi. Parfois, il mettait sa montre au-dessus de son poignet. Donc,
Exactement.
Il y a Ralph Lauren également, qui est un des grands
tailleurs
américains. C'est vrai.
Oui, parce que Ralph Lauren, tout à fait. Alors, il s'est fourni aussi beaucoup en Angleterre. À une époque, les souliers de Ralph Lauren, dans les années 90, 2000, vous aviez des Edward Green, qui est un des très grands du prêt-à-porter de Northampton en Angleterre. Des costumes faits par Chester Barry, qui était le plus grand en prêt-à-porter anglais, fait à la main.
Notamment Edouard Balladur, qui se fournissait chez Chester Barry.
Ah bah voilà. En costume. Alors, Chester Barry a été racheté plusieurs fois. Enfin, donc, c'était un produit différent du produit qu'on a connu, mais c'était d'un niveau d'un Brioni, d'un Attolini, de ces marques qui sont devenues des marques mondiales beaucoup plus chères que Chester Barry. Chester Barry, c'était un peu le bon plan du gentleman.
En dessous des prix qui étaient pratiqués à Savile Row.
Ah, complètement. Voilà. C'était 4 fois moins cher qu'un costume sur le mur à Savile Row, mais c'était aussi bien fait au niveau de la main. Voilà. Au niveau des finitions, au niveau de... Voilà, c'était le bon plan des gentlemen.
Bien, merci beaucoup Cyril Néré et Patrice Brandmeier d'avoir évoqué avec nous cette cravate. Je rappelle, Cyril Néré est collectionneur et historien de la cravate, et Patrice Brandmeier dirige notamment, co-dirige l'entreprise Impa di Galina, qui importe en France ses cravates calabrese, donc venant de Naples. J'espère que cette première émission vous aura intéressé. Vous voyez qu'avec un objet finalement apparemment très banal, très commun que l'on voit, eh bien, on peut analyser des concepts géopolitiques. On retrouve après des enjeux de puissance, des enjeux de pouvoir, des relations entre les pays, des terroirs également, un terroir de la cravate comme on a les terroirs du vin, les terroirs d'autres choses. Vous pouvez retrouver dans Conflit la rubrique Chemin de France qui présente des objets, des artisans. Ce que l'on veut montrer, c'est que la géopolitique, c'est une analyse à plusieurs échelles, c'est l'analyse des puissances, et que, évidemment, la question culturelle, la question artistique en fait pleinement partie au même titre que d'autres questions, l'énergie, la guerre, bien évidemment, c'est aussi des sujets que nous aborderons. Mais je voulais commencer par ce sujet un peu original, mais qui, j'espère, vous aura montré que la géopolitique s'intéresse à autre chose et que là aussi, on peut avoir une réflexion intéressante et comprendre également les enjeux de pouvoir et de puissance à travers le monde.